Salut, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur La Locale 97.3 à Saint-Giron, dans le troisième épisode de l'émission La Fille à la Fenêtre. Donc voilà, moi c'est Lucie, je suis là avec vous pour la prochaine heure. Et après, vous repartirez direct à Toulouse pour la web radio en direct depuis la semaine anti-répression autodéfense populaire. Alors aujourd'hui, on va partir très très loin dans le temps. On va faire un petit voyage avec une femme qui a vécu à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Voilà, c'était un peu ce que j'avais annoncé avec par le titre de mon émission « La fille à la fenêtre ». Donc l'idée, c'est de parler de littérature de femmes qui écrivaient dans un espace domestique clos parce que l'époque à laquelle elles écrivaient faisait qu'elles n'avaient pas le droit de faire grand-chose. Et donc Jane Austen, la personne dont on va parler aujourd'hui, est peut-être une des autrices de cette époque-là qui est la plus connue aujourd'hui. Parce que depuis le moment où elle est morte, donc en 1817, ses œuvres n'ont pas arrêté d'être rééditées puis traduites et elles ont connu un succès de plus en plus important. Et aujourd'hui, vous la connaissez probablement déjà tous et toutes, parce qu'elle a été complètement avalée par la société de consommation. Et on pourrait presque dire que son œuvre a été essorée jusqu'à la moelle pour en faire toujours plus de produits dérivés. Alors des adaptations cinématographiques en costume, des espèces de films d'époque, sinon des adaptations modernes, donc par exemple l'intrigue d'Orgueil et Préjugés, qui est son roman le plus célèbre, qui a été transposé aux États-Unis à l'époque actuelle, ou alors en Inde à l'époque actuelle, en un espèce de film Bollywood. Et l'année 2016 a même vu venir un film qui s'appelle Orgueil et Préjugés et Zombies, donc qui est une version de Jane Austen avec des batailles contre des armées de zombies. Donc je n'ai pas vu ce film, hein. Peut-être vous pourrez m'en dire des nouvelles. Et aussi des innombrables suites, romans, genre Jane Austen, des préquels, donc c'est en fait l'histoire avant l'histoire, c'est très à la mode maintenant quand un objet littéraire ou cinématographique a beaucoup de succès, on va écrire ce qui s'est passé avant. Donc voilà, et tout ça dans la veine du roman d'amour de gare, quoi. Des histoires très très romantiques qui se terminent avec un mariage à la fin. Un mariage, c'est pas mal de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle a autant de succès? C'est peut-être parce qu'en fait, on peut pas vraiment l'essorer jusqu'à la moelle, on peut pas vraiment l'essorer jusqu'à ce que... qu'il n'y ait plus rien au bout, parce qu'en fait, cette femme a écrit 6 romans dans lesquels, à force de relecture et relecture, on trouve toujours, toujours quelque chose. Ses personnages sont tellement humains, ses intrigues sont tellement vraies, son discours est tellement proche de l'ambivalence de la vérité et de la réalité. Quand il y a deux personnes différentes qui voient deux choses, elles le voient toujours de deux manières complètement différentes, avec leur propre subjectivité, et elle arrive vraiment à rendre ça, à nous donner à voir des personnages tellement humains et tellement complexes qu'on va les voir sous un autre œil à chaque lecture. Il n'y a jamais rien de terminé ni de tranché, on n'a jamais tout compris, et pourtant c'est des formes qui sont relativement simples, des livres qui sont pas très compliqués à lire. Même si le problème effectivement c'est qu'il parle d'une société qui est extrêmement loin de nous. Et je dis pas tout ça parce qu'elle dépeindrait une vision de l'amour ou du mariage hétérosexuel qui serait universelle et valable en tout temps, tout lieu, absolument pas. En fait, elle parle vraiment de sa condition, c'est-à-dire des femmes qui, comme elles, sont issues de la classe supérieure de la société, de la petite noblesse, donc de leur situation dans le monde, c'est-à-dire de personnes mineures qui sont soit assujetties à leur père quand elles ne sont pas mariées, à leur famille, ou alors assujetties à leur mari. Et en fait, elle va parler de ce point de vue-là, mais d'une manière tellement éblouissante qu'en fin de compte, on va toujours y trouver quelque chose à prendre pour nous aujourd'hui. Donc elle est née en 1775, Jane Austen, dans une famille de la noblesse anglaise non titrée. Alors en gros, la noblesse anglaise, elle se divise en deux catégories, hein, ceux qui ont un titre et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui ont un titre, ils peuvent siéger à la Chambre des Lords, qui est un des bouts du Parlement anglais. L'autre bout, c'est la Chambre des communes, auxquelles peuvent accéder tout le monde, entre guillemets, mais il me semble qu'à cette époque-là, c'est uniquement les propriétaires et évidemment les hommes. C'est une société de classe, évidemment. Alors, on est toujours dans une société de classe aujourd'hui, mais qui est extrêmement figée. et où l'ancienneté de la famille, le titre, la propriété, la fortune créent des barrières quasiment infranchissables entre les gens. Et donc, dans cette société-là, les femmes, elles ont un rôle qui est à peu près inexistant, si ce n'est faire valoir et ensuite épouser des hommes et leur faire des enfants. Et donc, en fait, le père de Jane Austen, il fait partie du clergé. Donc, c'est des protestants, c'est l'Église d'Angleterre. Donc, le clergé, les clergymen, comme on dit à cette époque-là, ce sont des personnes qui peuvent se marier, n'est-ce pas, comme tout, comme chez tous les protestants. Il est diplômé de l'Église de l'Université d'Oxford, son père. Il vient pas d'une famille extrêmement riche, mais il a une paroisse. Donc en fait, il est recteur de cette paroisse, donc ce qui veut dire qu'il vit de l'impôt du clergé, la dîme, donc ce que lui reverse la population. Mais comme c'est une paroisse pauvre, il a aussi d'autres activités pour pouvoir obtenir un train de vie qui correspond à sa classe, qui au départ est une classe quand même oisive, hein. Je veux dire, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Il travaille aussi un peu la terre, ou je suppose qu'il fait travailler la terre, et il donne aussi des cours à des élèves riches qui viennent en pension chez lui. Donc on peut voir... qui font vraiment partie de la classe inférieure, de la partie inférieure de cette classe supérieure, dans le sens où si elle ne fait ni le ménage ni la cuisine, n'est-ce pas, parce qu'elle a des domestiques pour le faire, la mère de Jane Austen et Jane Austen elle-même et ses sœurs reprisent leurs chaussettes, font du potager, s'occupent de la basse-cour, etc. Donc c'est pas non plus des femmes qui ne travaillent absolument pas. Et elles passent également beaucoup de temps évidemment à s'occuper des enfants parce qu'elles n'ont pas de gouvernante, elles n'ont pas d'argent pour avoir une gouvernante. Elle va passer une partie de sa vie à s'occuper de ses sœurs et de ses belles-sœurs en couche qui sont sur le point d'accoucher ou qui accouchent, de leurs enfants, etc. Et donc, George Austen, son père, le père de Jane Austen, il possède une bibliothèque très importante. Il possède plus de 500 livres, et c'est principalement des livres d'histoire et de la littérature. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque où on consacre absolument aucun argent à l'éducation des femmes, si ce n'est à leur apprendre à dessiner, à peindre, à faire du piano, des choses qui sont très intéressantes en soi, mais qui sont pas extrêmement utiles quand on apprend à faire que ça. À part ça, on leur apprend pas, en fait, je sais pas moi, l'algèbre, les mathématiques, l'histoire, l'orthographe ou des choses comme ça. Elles font pas d'études, comment dire. En fait, on leur apprend uniquement des choses qui vont leur permettre de trouver un époux, c'est-à-dire de briller en société, de regarder comme je sais bien jouer du piano, à regarder comme je sais bien dessiner, etc., pour augmenter leur taux de mariabilité, n'est-ce pas ? Et en fait, en tant que fille de pasteur, Jane Austen a l'avantage d'avoir accès à une bibliothèque qui est très importante pour l'époque, et surtout, son père lui en donne un accès illimité. C'est-à-dire qu'il lui dit pas « tu n'as pas le droit de lire tel livre » ou « tu n'as pas le droit de lire tel livre », elle peut lire absolument tous ses livres. Et c'est intéressant de voir que de nombreuses autrices anglaises célèbres du 19e siècle viennent en fait de familles de pasteurs. Donc on peut par exemple citer Elisabeth Gaskell, dont j'ai parlé à ma première émission, qui a écrit ce livre qui s'appelle La sorcière de Salem, dont je vous avais lu un extrait. Et aussi des sœurs Brontë, par exemple, qui sont plus connues. Charlotte Brontë, qui a écrit Jane Eyre. Émilie Brontë, qui a écrit Les Hauts de Hurlevent. Donc en fait, une des raisons pour lesquelles ces femmes ont pu écrire des livres et avoir... la culture suffisante aussi pour connaître les codes de la littérature de leur époque, c'est parce que leur père était pasteur et qu'il avait des livres et que ces livres, elles pouvaient les lire. Et que l'accès aux livres est une chose importante à considérer pour les femmes. Alors de la vie de Jane Austen, on ne sait pas grand-chose en fait. On ne sait pas ce qui l'a tourmentée, on ne sait pas ce qui l'a fait vibrer, on ne sait pas qui elle a aimé, qui elle n'a pas aimé. On ne sait pas quel était son rapport à l'écriture en fait. On n'a pas d'écrit de sa part où elle parle de son travail. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est jamais mariée, qu'elle a vécu toute sa vie avec sa sœur Cassandra, qui était la personne la plus proche d'elle. Son père et sa mère, mais son père est décédé quand elle avait 30 ans, et après sa mère qui lui a survécu, donc elle s'est aussi beaucoup occupée de sa mère, elle s'est beaucoup occupée de sa famille. Elle avait 4 frères qui ont tous eu des femmes, qui ont tous eu beaucoup d'enfants. Donc on sait juste que sa seule relation vraiment importante dans sa vie, c'était sa sœur Cassandra, qui était de 2 ans son aînée, qui était elle aussi vieille fille, parce qu'en fait son fiancé est mort quand elle avait 20 ans et qu'elle s'est jamais remariée. Et on sait de Jane Austen qu'elle a écrit 6 romans qui sont absolument extraordinaires et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, qui sont encore beaucoup lus. on a un seul portrait d'elle qui, d'après ses neveux et ses nièces qui ont écrit sur elle après sa mort, ne serait pas très ressemblant. Donc on ne sait même pas exactement à quoi elle a ressemblé. Et sa sœur Cassandra a détruit une grande partie de sa correspondance. En fait, quand elle s'est rendue compte, parce qu'elle elle a vécu plusieurs dizaines d'années après d'elle, quand elle s'est rendue compte de la renommée de sa sœur, elle a voulu détruire tout ce qui avait trait à sa vie privée. Donc en fait, elle a découpé des lettres. Et elle a brûlé ce qui lui semblait trop compromettant, ou en fait on ne sait pas ce qu'elle a brûlé. Et il nous reste que des bouts de correspondance qui sont souvent très très impersonnels. Mais vous verrez tout à l'heure, on va lire quelques petits bouts de ses lettres quand même. Donc en fait on ne sait pas ce qu'elle a pu écrire à sa sœur au moment les plus durs de sa vie, qui a été un déménagement forcé dans une ville qu'elle détestait, ou le fait que apparemment un homme qui allait probablement lui proposer le mariage qui est décédé. Tout ce qui nous reste, c'est des projections et des spéculations. Et de son vivant, elle a écrit 4 romans. Elle a publié 4 romans, pardon. Les deux autres ont été publiés de manière posthume. Et elle a publié le premier, Raison et Sentiment, en 1811, donc 6 ans avant sa mort. En fait, elle a mis beaucoup d'années avant de réussir à publier. Et ce premier roman, il n'est pas signé. Il y a uniquement marqué que ce roman a été écrit par une dame. Parce qu'en fait, à l'époque, sa position sociale, le fait qu'elle était non mariée, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient, mais elles signaient du nom de leur mari, du coup ça passait mieux, interdit à Jane Austen de publier sous son nom. À cette époque-là, 6 ans avant sa mort, elle touche pour la première fois des droits d'auteur, qui sont des sommes assez réduites, et elle peut devenir un peu indépendante financièrement pour la première fois de sa vie. Elle vit avec sa mère et sa sœur, et elle peut enfin voyager seule et disposer un peu de son argent comme elle le souhaite. Quand on considère ses romans, en fait, ils parlent que d'un seul sujet. Ils parlent du chemin qui est parcouru par une ou deux jeunes filles. Souvent, c'est un personnage principal, mais il y a aussi des personnages secondaires féminins qui sont importants. Et en fait, c'est quel est ce chemin que fait une jeune fille qui rentre dans la société, dans le sens où on la sort de chez elle. On la sort de chez elle entre 15 et 20 ans pour l'amener à des bals et la montrer, la mettre sur un espèce de marché du mariage où il faudrait qu'elle trouve quelqu'un. Et en fait, elle raconte ce chemin-là qui aboutit au mariage. C'est vraiment du début d'une jeune fille dans la société jusqu'à son mariage. J'avais envie, par rapport à ça, de vous lire une petite citation qui n'est pas du tout de Jane Austen, mais qui est d'une autrice française, Annie Ernaux, que j'aime beaucoup aussi, qui est une autrice contemporaine. C'est un livre qui s'appelle « Une femme », c'est un texte très court qui est consacré à sa mère. Et dans ce livre, elle dit ceci. Pour une femme, le mariage était la vie ou la mort, l'espérance de s'en sortir mieux à deux ou la plongée définitive. Il fallait donc reconnaître l'homme capable de « rendre une femme heureuse », entre guillemets. Et en fait, c'est exactement là la tâche des héroïnes de Jane Austen. Le choix du mari est crucial. C'est crucial de trouver quelqu'un avec qui on va bien s'entendre, parce qu'en fait, si on ne se marie pas, on reste toute sa vie au crochet de sa famille. Et en fait, on n'a absolument pas le droit de travailler. Là, je parle des femmes bourgeoises, elles n'ont vraiment pas le droit de travailler. Le seul travail qu'elles ont le droit de faire, c'est gouvernante ou institutrice. Et en fait, si elles font ce travail, elles risquent non seulement de se couper avec une partie de leur milieu social, parce que c'est extrêmement mal vu, mais elles risquent aussi d'avoir de grandes difficultés ensuite à trouver un mari. Et en fait, c'est les femmes qui vont se retrouver à faire gouvernante ou institutrice, c'est les femmes qui n'ont plus de famille, qui n'ont pas eu d'héritage et qui n'ont pas réussi à se marier et qui, du coup, vont devoir gagner leur vie en faisant ça. Bon, Jane Austen elle-même, elle ne s'est pas mariée, donc on verra après ce qu'elle dit à la fin de sa vie, peut-être de cette condition-là, et ce qu'elle en dit aussi par les extraits qu'on va lire aujourd'hui, qui sont uniquement tirés de son livre « Orgueil et préjugés ». Mais avant ça, on va commencer par une petite chanson, qui est toujours une chanson de Anne Sylvestre. Je suis désolée, je vous passe beaucoup de Anne Sylvestre dans cette émission. En fait, je pense qu'elle a vraiment une plume extraordinaire et que si on n'apprécie pas ses arrangements musicaux, qui ne sont pas toujours exceptionnels, pour être gentil, si on n'apprécie pas la manière qu'elle a de chanter, c'est difficile de dire qu'elle écrit mal, parce qu'en fait, elle a vraiment des textes qui touchent une énorme partie de la vie des femmes, et puis même de la vie en général. Enfin, elle parle d'énormément de choses qui sont très très belles. Et donc là, on va écouter une chanson qui s'appelle « L'histoire de Jeanne-Marie », qui en fait décrit à quel point il est difficile, donc à l'époque où Anne Sylvestre écrit cette chanson, dans cette chanson elle parle de la génération d'avant, c'est-à-dire, la condition des femmes au début du XXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle. Mais c'est encore souvent le cas aujourd'hui parce qu'il y a une énorme pression qui est exercée davantage sur les femmes que sur les hommes pour être en couple. Et donc là, elle parle d'une femme qui ne se marie jamais. C'est Jeanne-Marie. On se retrouve tout à l'heure après Anne Sylvestre dans La fille à la fenêtre.
Certains de vous se la rappellent. Elle ne tranchait pas beaucoup. Au milieu des plus ou moins belles, ne l'étant presque pas du tout. Sa laideur lui fut une chance, lui laissa le temps d'exister. Quand poussa son intelligence, elle était prête à récolter, elle était prête à récolter. On a pu dire, on a pu croire, de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire, l'histoire de Jeanne-Marie. Sa sûreté de bonne élève lui valut des inimitiés. Elle économisait ses rêves, elle les mettait de côté. Elle fauchait les excellences, comme le paysan son blé, mettant en grange sa science pour la faire un jour prospérer, pour la faire un jour prospérer. On a pu dire, on a pu croire, de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire, l'histoire de Jeanne-Marie. De tout ce qu'on enseigne aux filles, elle s'est quittée pour le mieux, montrant pour les travaux d'aiguille un don presque miraculeux. Son linge était d'un blanc d'hermine, repassé comme par magie. Que dire enfin de sa cuisine? Ça frisait la sorcellerie, ça frisait la sorcellerie. On a pu dire, on a pu croire, de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire, l'histoire de Jeanne-Marie. Quand on eut pesé ses mérites, on pensa, les vieilles surtout, qu'il était grand temps qu'elle abrite quelques marmots dans ses dessous. Que tant de vertus ménagères devait pas être à l'abandon, et qu'elle oublierait ses chimères dans le lit d'un brave garçon, dans le lit d'un brave garçon. On a pu dire, on a pu croire, de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire de Jeanne-Marie. Tranquillement elle fit face et refusa tous les partis. Dites-leur de ma part qu'ils fassent par une autre chauffer leur lit. Ils m'offrent un sentiment tiède contre le travail de mes bras. Dieu sait que si j'étais moins laide, j'aurais pas besoin de tout ça, j'aurais pas besoin de tout ça. On a pu dire, on a pu croire, de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire, l'histoire de Jeanne-Marie. Ça me plairait pas d'être pute, pas plus qu'entrer en religion. Non que l'ouvrage me rebute, mais il y faut une raison. Et dites-le bien à vos hommes, qu'ils ne viennent jamais frapper. De n'appartenir à personne m'empêchera pas d'exister, je ne veux pas la charité. On pourra dire, on pourra croire, de médisance en calomnie, elle n'est pas terminée, l'histoire, l'histoire de Jeanne-Marie.
Vous êtes de retour dans la locale 97.3 à Saint-Girons dans La fille à la fenêtre. Donc on vient d'écouter l'histoire de Jeanne-Marie d'Anne Sylvestre, où elle dit « De n'appartenir à personne ne m'empêchera pas d'exister ». C'est bien ce qui est arrivé à Jane Austen et ça nous fait très plaisir. Donc, on va commencer par juste lire les deux premières phrases d'Orgueil et Préjugé de Jane Austen. C'est un livre qui est paru en 1813. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire doté d'une certaine fortune est nécessairement à la recherche d'une épouse. Même si l'on ignore à peu près tout de ce que pense ou ressent un tel homme lorsqu'il fait son apparition, cette vérité est si bien fixée dans l'esprit des familles de la région qu'il est considéré comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Donc ces deux premières phrases nous disent très ironiquement que la tâche de toute jeune fille, qui est souvent directement prise en charge par sa famille et même à ses dépens, ça peut se retourner contre elle, c'est de trouver un homme riche à épouser. Parce que, comme nous dit Jane Austen dans le même roman, dans une autre de ses phrases, c'est « Les femmes célibataires ont une épouvantable propension à être pauvres, ce qui est un argument très sérieux en faveur du mariage. » En effet, les femmes anglaises ne sont pas reconnues par la loi comme des sujets indépendants. Leurs intérêts sont gérés par leur père ou par leur famille lorsqu'elles ne sont pas mariées, comme on le disait au début, et par leur mari lorsqu'elles le sont. Il faudra quand même se rappeler qu'en France, jusque dans les années 60, une femme n'a pas l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Elle est considérée par l'État comme une mineure. Et donc en Angleterre, les hommes et les femmes ont le même droit à l'héritage à cette époque-là, mais la pratique de land tale, c'est une forme juridique, fait que la plupart du temps, la propriété familiale ne peut être vendue et elle doit revenir entière à un héritier mâle. C'est exactement ce qui se passe dans Orgueil et Préjugé et c'est aussi le cas dans d'autres romans de Jane Austen, dans le sens où l'héroïne Elizabeth Bennet a quatre sœurs. Donc leur père, M. Bennet, n'a aucun fils et en fait sa propriété, donc qui peut être par exemple une cure qui lui est revenue pour l'administrer, dont il tire ses bénéfices, ça va revenir au prochain héritier mâle. Donc, et là, en l'occurrence, dans Orgueil et Préjugés, c'est un cousin éloigné qu'ils ne connaissent même pas. Et donc, si leur père meurt, et si ces cinq filles et leur si ces cinq filles ne sont pas mariées, elles vont rester à leur charge de leur mère qui n'aura quasiment plus d'argent et ne pourra quasiment pas les entretenir. Donc en fait, c'est des situations qui peuvent devenir extrêmement compliquées pour des femmes quand elles n'ont pas de frère qui peut leur donner de l'argent, pas de fils, quand elles se retrouvent uniquement entre femmes, et qu'en fait, on leur a jamais appris à travailler, et que si elles travaillent, il y a plein de gens qui vont refuser de leur parler, elles vont descendre complètement de leur classe sociale, et elles peuvent se retrouver plongées dans la misère. Et évidemment, quand une femme se marie, elle perd toute propriété sur ses biens propres, sur l'argent qu'a bien voulu ou pu lui donner sa famille. Parce qu'après le mariage, l'homme et la femme sont considérés comme étant une seule et même personne. Donc en l'occurrence, cette personne, c'est l'homme. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, ça se complique par le fait que le seul métier toléré pour les femmes de bonne famille, c'est d'être institutrice ou gouvernante, et que ça va être extrêmement mal considéré si elles le font. Donc dans un contexte pareil, l'héroïne d'Orgueil et Préjugés, Elizabeth Bennet, c'est un personnage vraiment extraordinaire parce qu'elle a un caractère très très fort, une force et une indépendance qui sont vraiment admirables. Elle sait qu'elle n'aura quasiment aucune dot, vu que son père n'a pas un argent démentiel et il va devoir le diviser entre ses cinq filles. Mais malgré ça, elle n'est pas prête à accepter n'importe qui et elle n'est surtout pas prête à épouser quelqu'un avec qui elle sait que ça se passera mal. Et donc, elle va, dans la première moitié du livre, elle va refuser deux prétendants, bien que toutes les deux pourraient lui permettre de vivre de manière très confortable. Donc on va voir ce qu'elle dit à ce fameux cousin éloigné, parce que ce fameux cousin éloigné vient les voir, il sait pertinemment qu'il va hériter de cette propriété, mais il se dit, tiens, je vais quand même épouser une de leurs filles, elles ont l'air pas mal. Et donc d'abord il jette son dévolu sur la sœur d'Elisabeth qui est l'aînée, mais sa mère pense qu'elle va bientôt être demandée en mariage par un monsieur beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Donc sa mère lui dit non, prenez pas la première, prenez pas Jane, mais prenez plutôt la deuxième Elisabeth. Parce que l'unique but de la vie de sa mère, c'est de marier ses cinq filles. Elle ne pense qu'à ça, elle ne respire, elle se lave les dents en pensant à ça. Et c'est d'ailleurs un personnage assez drôle et décrit de manière complètement ridicule par Jane Austen. Monsieur Collins, le fameux cousin, va venir voir Elisabeth et on va voir quels sont les propos qu'il va lui tenir. Le lendemain s'ouvrit sur une nouvelle scène à Longbourn. Monsieur Collins fit sa déclaration en bonne et due forme. Ayant résolu de la formuler sans perdre de temps, puisque son autorisation d'absence n'allait que jusqu'au samedi suivant, et comme il n'éprouvait aucun doute qui aurait rendu cet instant pénible pour lui, il procéda de manière très ordonnée, en respectant tous les rites qu'il croyait faire partie de l'opération. Peu après le petit déjeuner, il trouva réunies Madame Bennett, Elisabeth et l'une de ses sœurs cadettes, et s'adressa ainsi à la mère. Puis-je compter, madame, sur l'intérêt que vous inspire votre charmante fille Elisabeth quand je sollicite l'honneur d'un entretien privé avec elle dans le courant de la matinée ? Avant qu'Elisabeth ait eu le temps de faire autre chose que rougir de surprise, Madame Bennett répondit aussitôt : « Oh mon Dieu ! Oui, bien sûr. Je suis certaine que Lizzie sera très heureuse. Je suis sûre qu'elle n'y verra aucune objection. Viens, Kitty, j'ai besoin de toi là-haut. » Et, ramassant son ouvrage, elle s'enfuyait déjà lorsqu'Elisabeth la rappela. « Chère maman, ne partez pas. Je vous supplie de ne pas partir. Monsieur Collins m'excusera. Il ne peut rien avoir à me dire que d'autres ne puissent entendre. Je vais moi-même sortir. »« Non, non, Lizzie, pas de bêtises. Je désire que tu restes où tu es. » Et comme Elisabeth, l'air contrarié et gêné, semblait réellement sur le point de s'échapper, elle ajouta « Lizzie, j'exige que tu restes et que tu écoutes Monsieur Collins. » Elisabeth ne pouvait s'opposer à pareille injonction. Et un instant de réflexion lui fit comprendre qu'il serait plus sage d'en finir au plus vite et aussi calmement que possible. Elle se rassit donc et tenta, en s'affairant sans cesse, de masquer ses sentiments partagés entre le désarroi et la stupeur. Mrs. Bennett et Kitty partirent, et dès qu'elles furent sorties, M. Collins commença. « Croyez-moi, ma chère Elisabeth, votre pudeur, loin de vous desservir, augmenterait plutôt vos autres perfections. Vous auriez paru moins aimable à mes yeux si vous n'aviez pas manifesté cette légère réticence. Mais permettez-moi de vous assurer que j'ai le consentement de votre mère pour m'adresser à vous. Vous ne pouvez ignorer l'objectif de mon discours, même si votre délicatesse naturelle vous pousse à feindre de ne pas comprendre. Mes attentions ont été trop marquées pour que l'on s'y méprît. Presque dès l'instant où je suis entrée dans cette maison, je vous ai choisie comme la compagne de mes jours futurs. Mais avant de me laisser emporter par mes sentiments à ce sujet, il serait peut-être judicieux d'énoncer les raisons pour lesquelles je souhaite me marier, et pour lesquelles surtout je suis venue dans le Hertfordshire avec le projet de me trouver une épouse, comme je l'ai incontestablement fait. » À l'idée que M. Collins, avec toute sa froideur solennelle, se laissa emporter par ses sentiments, Elisabeth faillit éclater de rire. Elle ne put donc profiter de cette courte pause pour tenter de l'arrêter, et il continua. Mes raisons pour me marier sont les suivantes. D'abord, il me semble bon qu'un ecclésiastique, dans une situation aisée, comme je le suis moi-même, montre dans sa paroisse l'exemple matrimonial. Deuxièmement, je suis convaincu que cela contribuera grandement à mon bonheur. Troisièmement, et j'aurais peut-être dû le signaler auparavant, c'est le conseil et la recommandation spécifique de cette très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice. Par deux fois, elle a daigné m'offrir son avis, sans que je le demandasse, à ce sujet. Et c'est samedi soir, alors que je quittais Hunsford le lendemain, entre nos parties de quadrille, tandis que Madame Jenkinson disposait le repose-pied de Miss de Bourg, que sa seigneurie a dit « Monsieur Collins, vous devez vous marier. Un pasteur comme vous doit se marier. Choisissez judicieusement, choisissez une demoiselle bien née, faites-le pour moi. » Et pour vous, qu'elle soit une jeune fille active, utile, non pas élevée dans des idées de grandeur, mais capable d'aller loin avec un revenu modeste. Tel est mon conseil. Trouvez-vous une femme de ce genre dès que vous le pourrez, amenez-la à Hunsford et je lui rendrai visite. Permettez-moi à propos de souligner, ma belle cousine, que dans le calcul des avantages qu'il est dans mon pouvoir de vous offrir, la condescendance et la générosité de Lady Catherine de Bourg ne comptent pas parmi les moindres. Vous verrez que ses façons sont au-delà de ce que je peux décrire. Je pense qu'elle jugera acceptable votre esprit et votre vivacité, surtout lorsqu'ils seront tempérés par le silence et le respect que son rang provoque inévitablement. Voilà ce qui, de manière générale, me porte vers le mariage. Il me reste à énoncer pourquoi j'ai tourné mes vues vers Longbourn plutôt que dans mon propre voisinage où, croyez-moi, vivent de nombreuses jeunes filles aimables. Mais le fait est que, devant hériter de cette propriété après la mort de votre très honoré père, qui a seulement peut-être encore bien des années à vivre, je n'ai pu trouver le repos qu'en décidant de choisir une épouse parmi ses filles, afin que la perte fût pour elle aussi réduite que possible lorsque le triste événement arrivera, ce qui, je l'ai dit, peut ne se produire que dans plusieurs années. Telle était ma motivation, ma belle cousine, et je me flatte de penser qu'elle ne me fera pas baisser dans votre estime. À présent, il ne me reste plus qu'à vous assurer, dans les termes les plus vigoureux, de la violence de mon affection. La fortune me laisse parfaitement indifférent, et je ne formulerai aucune exigence sur ce point auprès de votre père, puisque je sais fort bien qu'elle ne saurait être satisfaite. Vous n'aurez jamais droit qu'aux 1000 livres à 4% de rente qui ne seront à vous qu'après le décès de votre mère. Là-dessus, j'observerai donc un silence immuable et vous pourrez être certaine qu'aucun reproche intéressé ne franchira jamais mes lèvres quand nous serons mariés. Il était absolument nécessaire de l'interrompre sur le champ. « Vous allez trop vite, monsieur, s'écria Elisabeth. Vous oubliez que je n'ai pas répondu. Laissez-moi le faire sans plus attendre. Je vous remercie pour le compliment que vous m'adressez. Je suis très sensible à l'honneur de votre demande, mais il m'est impossible de réagir autrement qu'en la déclinant. » « Je sais de longue date, répliqua Monsieur Collins avec un geste cérémonieux, que les demoiselles ont l'habitude de repousser les avances de l'homme qu'elles ont en secret l'intention d'agréer, lorsqu'ils sollicitent leur main pour la première fois. Parfois ce refus est répété, et même à plusieurs reprises. Je me sens donc nullement découragée par ce que vous venez de dire, et j'ai l'espoir de vous mener à l'hôtel avant longtemps. » « Ma parole, monsieur, cet espoir est assez extraordinaire après ma déclaration. Je vous assure que je ne suis pas l'une de ces demoiselles, s'il en existe, qui ont la témérité de suspendre leur bonheur à l'éventualité d'une seconde demande. Je suis parfaitement sérieuse dans mon refus. Vous ne sauriez me rendre heureuse et je suis convaincue d'être la dernière personne au monde qui pourrait faire votre bonheur. Et si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis persuadée qu'elle ne me trouverait d'aucune manière qualifiée pour ce rôle. » Quand bien même il serait certain que Lady Catherine fût de cette opinion, commença M. Collins d'un ton très grave. Mais non, je ne puis imaginer que sa seigneurie désapprouve mon choix. Et vous pouvez être sûr que lorsque j'aurai l'honneur de la revoir, je lui dirai le plus grand bien de votre pudeur, de votre sens de l'économie et de vos autres aimables qualités. Pourtant, M. Collins, tout éloge de ma personne sera superflu. Vous devez me laisser juger par moi-même et m'accorder assez de crédit pour croire ce que je dis. Je vous souhaite d'être très heureux et très riche et, en refusant votre offre, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il en soit ainsi. Par cette proposition, vous avez satisfait vos scrupules concernant ma famille et vous pourrez sans hésiter prendre possession du domaine de Longbourn dès que vous en hériterez. La question peut donc être considérée comme définitivement réglée. Sur ces mots, Elisabeth se leva et elle aurait quitté la pièce si M. Collins ne lui avait pas adressé ses propos. La prochaine fois que j'aurai l'honneur d'aborder ce sujet avec vous, j'espère que je recevrai de votre part une réponse plus favorable que celle-ci, même si je suis loin de vous accuser à présent de cruauté, parce que je sais que le beau sexe a pour coutume établie de rejeter un homme lors de sa première demande. Peut-être n'en avez-vous dit autant que pour m'encourager, comme le permet la vraie délicatesse de la nature féminine. « Vraiment, monsieur Collins, s'exclama Elisabeth avec chaleur, vous m'intriguez au plus haut point. » Si vous voyez un encouragement dans ce que j'ai dit jusqu'ici, je ne sais comment formuler mon refus de manière à vous convaincre que c'en est bien un. Vous devrez me laisser me flatter de cette pensée, ma chère cousine. Le refus que vous opposez à mes avances n'est qu'une une phrase dictée par l'usage. Voici, brièvement énoncées, les raisons que j'ai de le croire. Il ne me semble pas que ma main soit indigne de vous, ni que le sort que je peux vous offrir soit autre qu'extrêmement enviable. Ma situation dans la vie, mes relations avec la famille de Bourg, mes liens avec la vôtre, tout cela milite en ma faveur. Et vous devriez également considérer que malgré vos nombreux attraits, il n'est nullement certain que vous receviez jamais une autre demande en mariage. Votre fortune est hélas si réduite qu'elle risque fort de rendre négligeable votre beauté et vos aimables talents. Comme je me vois donc forcée de conclure que vous n'êtes pas sérieuse dans votre refus, je choisis de l'attribuer à votre désir d'accroître mon amour par l'attente, selon les pratiques ordinaires des femmes de bon ton. Je vous assure, monsieur, que je n'ai aucune prétention à ce genre de bon ton qui consiste à tourmenter un homme respectable. Je préférerais qu'on me fît le compliment de me croire sincère. Je vous remercie à nouveau pour l'honneur que représente votre demande, mais l'accepter est absolument impossible. Mes sentiments me l'interdisent, sur tous les plans. Puis-je m'exprimer plus clairement ? Ne voyez-vous pas en moi une dame de bon ton ? Ne voyez pas en moi une dame de bon ton qui cherche à vous séduire, mais une créature rationnelle qui dit la vérité tout droit sortie de son cœur. Vous êtes exquise d'un bout à l'autre de notre entretien, s'écria-t-il, avec un air de galanterie maladroite. Et je suis persuadée que lorsqu'elle sera sanctionnée par l'autorisation expresse de vos excellents parents, ma proposition ne manquera pas de vous paraître acceptable. Face à une telle persévérance dans l'aveuglement, Elisabeth n'avait plus rien à dire. Elle se retira aussitôt en silence, résolue, s'il persistait à considérer ses refus réitérés comme des encouragements flatteurs, à recourir à son père, dont la réponse négative serait prononcée de manière décisive et dont le comportement ne saurait pas, du moins, être imputé à l'affectation et à la coquetterie propre aux dames de bon ton.
So you told all the boys that you were gonna take me out. Even had the nerve to make a bet. Yes, you did. That I would give in all my love. You would win, but you haven't. You haven't won it yet. You took me for a push. Oh, you thought I was a push. Oh, I'm not a push. Oh, but you thought my love was easy to get. All of the girls think you're fine. They even call you Romeo. You got them, yeah, you got them running to and fro. Yes, you have, but I don't want a one-night thrill. I want a love that's for real. And I can tell by your line, yours is not the lasting kind. You took me for a push. Oh, you thought I was a push. Oh, change my mind. Your tempting lips, your wavy hair.
Oh yeah.
Your pretty eyes with that little stare. It makes me weak and I start to bend and then I stop and think again. No,
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 no, no. Don't let yourself go. I hate to spoil your reputation. Took me for a push. Oh, oh, I'm not a
push.
Oh, oh, you thought I was a
push.
Oh, oh, you can't
push me.
Oh, nobody is gonna
push me.
Oh, you're not man enough to
push me.
Yeah, everybody thought you was gonna.
Vous êtes de retour sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans La fille à la fenêtre. Et nous avons un auditeur zélé que nous remercions vraiment du fond du cœur qui vient nous téléphoner pour dire, enfin je parle au nous, je suis vraiment désolée alors que je suis toute seule, qui vient de m'appeler pour dire que ce n'est que c'était pas les protestants, c'était les anglicans. Alors effectivement je suis d'accord, c'est l'église anglicane dont il s'agit, mais en fait ils font partie du courant quand même du protestantisme. Donc merci beaucoup Mario pour ton assiduité et ton écoute critique. Alors, on vient d'écouter Etta James dans une chanson qui s'appelle Push Over, qui en gros dit « Ne me presse pas, ne me presse pas, non, 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 je vais bien faire comme je le voudrais, laisse-moi tranquille. » C'est vrai qu'on avait un peu besoin de ça après avoir écouté ce monsieur Collins très pénible et très ridicule qui n'arrête pas de, qui refuse d'écouter ce que lui dit Elisabeth, mais à tout bout de champ. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite du livre ? Eh ben, ce même ridicule monsieur Collins, qui veut absolument trouver n'importe quelle femme à n'importe quel prix, eh ben, deux jours après, il va demander en mariage Charlotte, la meilleure amie d'Elisabeth. Et sauf que Charlotte, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, elle va l'accepter, au grand désespoir d'Elisabeth. Elle mettra du temps à comprendre, mais elle va finir par le faire au fil du roman. Et Jane Austen va savoir nous rendre très très touchante le personnage de Charlotte, qui est ce qu'à l'époque on considère être une vieille fille, c'est-à-dire qu'elle a 27 ans. Elle n'a pas de fortune, elle est considérée comme laide, et elle sait que si elle refuse ce prétendant, elle ne se mariera jamais, et elle vivra toute sa vie au crochet de ses parents. On va lire deux extraits très très courts qui nous montrent un peu ce que pense Charlotte de cette situation et pourquoi elle accepte d'épouser Monsieur Collins, qui est pédant, bavard et n'écoute rien. Bref, toute la famille fut transportée de joie comme il convenait. Les cadettes formèrent l'espoir d'être présentées dans le monde un an ou deux avant la date initialement prévue, et les garçons furent soulagés de leur crainte que Charlotte ne mourût vieille fille. Pour sa part, Charlotte était assez calme. Ayant obtenu ce qu'elle voulait, elle avait maintenant le temps d'y réfléchir, et, dans l'ensemble, ses réflexions étaient satisfaisantes. Bien sûr, M. Collins n'était ni sensé ni agréable. Sa société était déplaisante, et il ne pouvait avoir pour elle qu'un amour imaginaire. Mais il n'en serait pas moins son mari. Sans avoir une très haute idée des hommes ou de la vie conjugale, elle avait toujours aspiré au mariage. C'était la seule condition honorable pour une demoiselle instruite et sans grande fortune. Même s'il n'offrait pas forcément le bonheur, il était le plus sûr moyen de se mettre à l'abri du besoin. Ce moyen, elle l'avait conquis, et à l'âge de 27 ans, sans avoir jamais été jolie, elle appréciait pleinement sa chance. Le détail le moins agréable était la surprise que cela causerait à Elizabeth Bennet, dont elle prisait l'amitié plus qu'aucune autre. Elizabeth s'étonnerait, et la blâmerait probablement. Malgré sa résolution inébranlable, Charlotte serait blessée par cette désapprobation. Elle résolut de transmettre elle-même l'information et chargea donc M. Collins, lorsqu'il repartit dîner à Longbourn, de dissimuler ce qui s'était passé à tous les membres de la famille. Depuis un jour ou deux, Elizabeth jugeait vraisemblable que M. Collins s'imagina épris de son amie, mais il lui paraissait presque aussi invraisemblable qu'il reçût des encouragements de Charlotte que d'elle-même. Sa stupeur fut donc si grande qu'elle passa outre les règles de la bienséance et ne put s'empêcher de s'écrier « Fiancée à Monsieur Collins, ma chère Charlotte, c'est impossible !» Face à une accusation aussi directe, Miss Lucas perdit un peu de l'assurance avec laquelle elle avait relaté son histoire. Mais comme elle s'y était préparée, son trouble fut de courte durée. Elle reprit bientôt son calme et répondit avec sérénité. « Pourquoi cette surprise, ma chère Elisa ? Te paraît-il incroyable que Monsieur Collins puisse mériter la bonne opinion d'une femme parce qu'il n'a pas eu la chance de réussir auprès de toi ?» Elisabeth s'était cependant ressaisie et au prix d'un vigoureux effort, elle put déclarer à Charlotte d'une voix assez ferme que la perspective de cette union la réjouissait fort et qu'elle lui souhaitait tout le bonheur du monde. « Je devine ce que tu ressens, » répliqua Charlotte. « Tu dois être surprise, très surprise. C'est toi que M. Collins voulait épouser il y a peu. Mais quand tu auras eu le temps d'y réfléchir, j'espère que tu approuveras ma décision. Je ne suis pas romantique, tu le sais. Je ne l'ai jamais été. » Je n'aspire qu'à une maison confortable, et compte tenu du caractère, des relations et de la situation de M. Collins, je suis convaincue que mes chances de bonheur avec lui sont égales à celles de bien des gens lorsqu'ils entrent dans la vie conjugale. « Sans aucun doute, » répondit doucement Elisabeth. Après un silence gêné, elles rejoignirent le reste de la famille. Charlotte ne s'attarda guère, et Elisabeth put alors réfléchir à ce qu'elle venait d'entendre. Il lui fallut longtemps pour admettre l'idée d'une alliance aussi incongrue. Il était étrange que M. Collins eût fait deux demandes en trois jours, mais combien plus étrange qu'il eût maintenant été agréé. Elle savait depuis toujours que Charlotte ne partageait pas tout à fait sa conception du mariage, mais elle ne l'aurait pas cru capable, confrontée à la réalité, de sacrifier ses sentiments les plus élevés au nom des avantages matériels. Charlotte, épouse de M. Collins, quelle image humiliante! À la souffrance de voir une amie se déshonorer et sombrer dans son estime, s'ajoutait la certitude désolante que jamais cette amie ne trouverait un quelconque bonheur dans le sort qu'elle avait choisi. C'est une histoire bien triste. Mais bon, après, Elisabeth ira la voir et elle verra que Charlotte se tire pas mal de cette situation, qu'elle a une maison où elle a des pièces séparées, où elle peut vivre sa vie et quitter son mari quand elle ne le supporte pas. Et surtout, elle a un pouvoir qui est le pouvoir de diriger une maison, entre guillemets. Et donc, plutôt que de rester sous tutelle de ses parents toute sa vie. Maintenant, j'ai envie de vous lire quelques belles lettres de Jane Austen qu'elle a adressées à ses nièces à la fin de sa vie. Parce que si sa sœur a brûlé une grande partie de sa correspondance, ses nièces les ont conservées. Et certains passages nous permettent d'entrevoir par des bouts sa vision de la condition des femmes à son époque. Donc ça va être juste des tout petits extraits. Donc voilà par exemple ce qu'elle écrit à sa nièce Fanny en 1817. C'est quelques mois avant qu'elle meure elle-même d'une maladie. Et elle écrit elle parle d'Anna dans sa lettre. Anna, c'est une autre de ses nièces qui est enceinte à ce moment. Anna est confinée chez elle. Son mari est passé ici l'autre jour et nous a informé qu'elle se portait plutôt bien, mais qu'elle ne pouvait entreprendre une si longue marche. Elle doit venir dans sa voiture à Anne. Pauvre Anna, pauvre animal, elle sera usée avant même d'avoir 30 ans. Je la plains beaucoup. Madame Clément est elle aussi dans le même état. Je suis épuisée de tous ses enfants. Madame Ben en a eu un 13e. Donc oui, vous avez bien entendu, elle dit, en parlant de sa nièce, « pauvre animal ». Et moi, ça me fait simplement penser qu'elle considère bien que quasiment l'unique rôle des femmes de sa classe, c'est uniquement de produire des enfants à non plus finir, comme des animaux. Et à la même, elle écrit peu de temps avant, donc à la même nièce Fanny, « les femmes seules ont une terrible propension à la pauvreté, ce qui constitue un très bon argument en faveur du mariage. » Mais il n'est pas nécessaire que j'insiste là-dessus avec toi, ma chérie. Tu n'as pas besoin d'encouragement. Eh bien, je vais te répéter ce que je t'ai souvent dit. Ne te presse point. L'homme que tu attends viendra un jour, sois-en assuré. Au cours des 2 ou 3 prochaines années, tu rencontreras une personne plus irréprochable que toutes celles que tu as déjà connues, qui te chérira avec plus de chaleur que lui ne l'a jamais fait. Là, elle parle d'un homme dont Fanny a été amoureuse et qui a été un amour déçu. Et auquel tu t'attacheras si éperdument que tu auras l'impression de ne jamais avoir véritablement aimé auparavant. De plus, en ne te consacrant pas au métier de mère trop tôt dans ta vie, tu conserveras ta jeunesse de constitution, d'esprit, de silhouette et d'allure, alors que Madame William Hammond se flétrit à force de couches et d'allaitement. Ce qu'il faut noter à ce passage, c'est que Jane Austen a vu 2 de ses belles-sœurs mourir en couches, et elle a vu d'autres femmes aussi de son entourage le faire. Elisabeth en 1808, à l'âge de 35 ans, à l'accouchement de son 11e enfant, et Francis en 1814, qui accouchait du 4e enfant. Et par ses lettres, à la fin de sa vie, on a presque l'impression qu'elle est soulagée de ne pas avoir partagé ce sort, et qu'en tout cas, elle ne le souhaite certainement pas à ses nièces. On va maintenant faire une petite pause musicale, en allant un peu ailleurs, avec Billie Holiday, une chanson qui s'appelle « Time on my hands ».
Oh.
Vous êtes de retour sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans La fille à la fenêtre. Et donc je vous parle du roman Orgueil et préjugés de Jane Austen. On va lire un dernier extrait de ce livre avant de se quitter. Et en fait, on est vraiment tout à la fin du livre. Il s'est passé plein de choses, donc je ne vais pas vous raconter, mais peut-être que plein de vous connaissent cette histoire qui est peut-être aussi une grande histoire romantique. L'homme dont finalement est tombée amoureuse Elisabeth est un homme riche et il a une tante qui est d'une classe beaucoup plus élevée que celle d'Elisabeth. Et en fait, cette tante vient lui rendre une petite visite à Elisabeth. Lady Catherine pénétra dans la pièce, l'air plus revêche que jamais, se contenta d'incliner légèrement la tête en réponse au salut d'Elisabeth et s'assit sans un mot. Elisabeth avait mentionné à sa mère le nom de leur visiteuse à son entrée, mais celle-ci n'avait pas demandé à être présentée. Tout abasourdie, quoique flattée de recevoir une visite aussi prestigieuse, Madame Bennet l'accueillit avec la plus grande politesse. Après être restée assise un moment en silence, elle dit très sèchement à Elisabeth : « J'espère que vous allez bien, Madame Bennet. Cette dame est votre mère, je suppose. » Elisabeth répondit très succinctement que oui. « Et je suppose que c'est là... » « Oui, madame, » dit Mrs. Bennet, ravie de parler à Lady Catherine. « C'est mon avant-dernière. » La plus jeune vient de se marier et mon aîné se promène quelque part dans le jardin avec un jeune homme qui fera bientôt partie de la famille, je crois. « Vous avez ici un très petit parc, » déclara Lady Catherine après une courte pause. « Ce n'est rien en comparaison de Rosings, madame, mais je vous assure qu'il est bien plus grand que celui de Sir William Lucas. Cette pièce doit être bien désagréable pour s'y tenir dans la soirée, l'été. Les fenêtres sont plein ouest. » Madame Bennet lui assura qu'il ne s'y tenait jamais après le dîner, puis ajouta « Oserais-je demander à sa seigneurie si elle a laissé monsieur et madame Collins en bonne santé ?»« Oui, en parfaite santé. Je les ai vus avant-hier. » Elisabeth pensait qu'elle allait maintenant leur remettre une lettre de Charlotte, car cela lui semblait être le seul motif probable de sa venue. Mais il n'en fut pas question et elle resta bien intriguée. Avec beaucoup de civilité, Madame Bennet pria Lady Catherine d'accepter quelques rafraîchissements, mais celle-ci refusa de manger quoi que ce soit, de façon catégorique et assez peu polie. Se levant, elle dit alors à Elisabeth « Miss Bennet, j'ai cru voir un charmant petit bois d'un côté de votre pelouse. Je serais ravie d'y jeter un coup d'œil si vous m'accordiez la faveur de votre compagnie. »« Va, ma chérie, » dit sa mère, « et montre toutes les allées à sa seigneurie. Je pense qu'elle trouvera l'ermitage à son goût. » Elisabeth obéit et après être allée chercher bien vite son ombrelle dans sa chambre, elle escorta leur noble visiteuse jusqu'au rez-de-chaussée. Alors qu'elle traversait le vestibule, Lady Catherine ouvrit les portes de la salle à manger et du petit salon. Après un rapide examen, elle qualifia ses pièces de correctes et poursuivit son chemin. Sa voiture était restée à la porte et Elisabeth vit que sa femme de chambre y était encore assise. Elles marchèrent en silence sur le sentier semé de gravier qui menait au petit bois. Elisabeth avait résolu de ne faire aucun effort de conversation avec une femme qui se montrait à présent plus que jamais insolente et déplaisante. « Comment ai-je pu trouver qu'elle ressemblait à son neveu ?» se demanda-t-elle en contemplant son visage. Dès qu'elle fut rentrée dans le bosquet, Lady Catherine commença de la façon suivante. « Vous devez comprendre sans peine, Miss Bennet, la raison de mon voyage jusqu'ici. Votre propre cœur, votre propre conscience doivent vous dire pourquoi je suis venue. » Elisabeth la regarda avec un étonnement sincère. « Je vous assure qu'il n'en est rien, madame. J'ignore ce qui me vaut l'honneur de vous voir ici. »« Miss Bennet, » répliqua sa seigneurie avec colère, « vous devriez savoir qu'il ne faut pas plaisanter avec moi. Mais si vous avez choisi de jouer les hypocrites, je n'en ferai pas autant avec vous. La sincérité et la franchise de mon caractère ont toujours été vantées, et dans une circonstance aussi grave, je ne saurais me conduire autrement. » Une rumeur des plus alarmantes m'est parvenue il y a 2 jours. On m'a dit que non seulement votre sœur était sur le point de conclure un mariage fort avantageux, mais que vous, que Miss Elisabeth Bennet, allez, selon toute vraisemblance, être peu après unie à mon neveu, mon propre neveu, Monsieur Darcy. Je sais qu'il ne peut s'agir que d'un scandaleux mensonge, et je ne lui ferai pas l'injure de le croire possible, mais j'ai immédiatement décidé de me mettre en route pour vous faire part de mes sentiments. « Si vous jugiez impossible que l'information fût vraie, » dit Elisabeth en rougissant de stupeur et de dédain, « je m'étonne que vous ayez pris la peine de parcourir tout ce chemin. quel pouvait être le but de votre seigneurie. Exigez sur le champ que cette rumeur soit universellement démentie. En venant à Longbourn, me voir ainsi que ma famille, riposta froidement Elisabeth. Vous risquez plutôt de la confirmer, si tant est qu'un tel bruit circule vraiment. S'il circule, prétendez-vous ne pas être au courant? Ne vous êtes-vous pas efforcé de le répandre? Ignorez-vous que cette rumeur se propage partout? Je n'en savais rien. Et pouvez-vous de même affirmer qu'elle n'a aucun fondement? Je ne prétends pas posséder autant de franchise que votre seigneurie. Vous avez le droit de poser des questions auxquelles je choisis de ne pas répondre. Cela n'est pas tolérable, Miss Bennet. J'exige d'être renseignée. A-t-il, mon neveu, vous a-t-il demandé en mariage? Votre seigneurie affirme que c'est impossible. Cela devrait l'être, mais cela doit l'être tant qu'il conservera l'usage de la raison. Mais dans un instant d'égarement, victime de vos ruses et de vos attraits, il pourrait avoir oublié qu'il se doit à lui-même et à sa famille. Peut-être l'avez-vous séduit. Si c'est le cas, je serai la dernière à l'avouer. Miss Bennet, savez-vous qui je suis? Je ne suis pas accoutumée à ce genre de langage. Je suis pour ainsi dire la plus proche parente qu'est M. Darcy et j'ai le droit de connaître ses plus chères préoccupations. Mais vous n'avez pas le droit de connaître les miennes et jamais une attitude comme la vôtre ne me poussera à me montrer plus explicite. Entendons-nous bien. Ce mariage, auquel vous avez la présomption d'aspirer, ne pourra jamais avoir lieu. Non, jamais. M. Darcy est promis à ma fille. Qu'avez-vous à dire à cela? Une seule chose. S'il en est ainsi, vous ne pouvez avoir aucune raison de croire qu'il demandera ma main. Lady Catherine hésita un moment, puis répondit. La promesse qui les unit est d'un genre un peu particulier. Depuis leur enfance, ils sont destinés l'un à l'autre. C'était le plus cher désir de Lady Darcy, et c'était le mien. Nous préparions cette union quand ils étaient encore au berceau. Aujourd'hui, alors que les vœux des deux sœurs doivent être exaucés par ce mariage, tout cela serait empêché par une jeune femme de basse extraction, qui n'a aucune position dans le monde et qui n'a aucun lien avec la famille. Êtes-vous indifférente aux souhaits de ses amis? À son engagement tacite envers Miss de Bourg? N'avez-vous plus aucune notion des convenances, plus aucune délicatesse? Ne vous ai-je pas dit qu'il était destiné à sa cousine depuis son plus jeune âge? Oui, et je l'avais entendu dire. Mais qu'est-ce que cela me fait? S'il n'y a pas d'autre obstacle à ce que j'épouse votre neveu, je ne m'en laisserai certainement pas dissuader parce que sa mère et sa tante souhaitaient qu'il s'alliât à Miss de Bourg. Vous en avez toutes deux fait autant que vous le pouviez en prévoyant ce mariage. C'est à d'autres que vous de le mener à bien. Si ni l'honneur ni l'inclination ne lient M. Darcy à sa cousine, pourquoi ne pourrait-il pas faire un autre choix? Et si je suis ce choix, pourquoi ne pourrais-je pas l'accepter? Parce que l'honneur, les convenances, la prudence et même l'intérêt le défendent. Oui, Miss Bennet, l'intérêt. Car n'espérez pas être accueillie par sa famille ou ses amis si vous allez délibérément à l'encontre des désirs de tous. Vous serez blâmée, ignorée et méprisée par tous ceux qui lui sont proches. Votre alliance sera un déshonneur, même votre nom ne sera pas prononcé par aucun d'entre nous. Ce sont là de bien grands malheurs, répliqua Elisabeth, mais la femme de M. Darcy jouira de telles sources de bonheur nécessairement associées à sa situation que, somme toute, elle n'aura aucune raison de se lamenter. Quelle fille entêtée, opiniâtre, j'ai honte pour vous. Est-ce là votre gratitude pour les attentions que je vous ai prodiguées au printemps dernier? Ne me devez-vous rien à ce compte? Asseyons-nous. Vous devez comprendre, Miss Bennet, que je suis venue ici bien décidée à parvenir à mes fins et que je ne m'en laisserai pas dissuader. Je n'ai pas l'habitude de me soumettre aux caprices de quiconque, je ne me résigne jamais à une déception. Cela rend la situation présente de votre seigneurie d'autant plus regrettable, mais ne m'affecte en rien. Je vous interdis de m'interrompre. Écoutez-moi en silence. Ma fille et mon neveu sont faits l'un pour l'autre. Du côté maternel, ils descendent de la même noble lignée, et du côté paternel, de familles respectables, honorables et anciennes, bien que dépourvues de titres de noblesse. Leur fortune est splendide, à l'un comme à l'autre. Ils sont destinés l'un à l'autre par la voix de tous les membres de leur maison respective. Et par quoi seraient-ils séparés? Par les prétentions d'une jeune parvenue sans famille, sans relation, sans fortune. Peut-on tolérer cela? Mais cela ne doit pas, cela ne peut pas être. Si vous étiez consciente de votre propre intérêt, vous ne chercheriez pas à quitter la sphère dans laquelle vous avez grandi. En épousant votre neveu, je ne considère pas que je quitterai ma sphère. C'est un gentleman, je suis la fille d'un gentleman. Nous sommes donc égaux sur ce plan. C'est vrai, vous êtes la fille d'un gentleman. Mais qui était votre mère? Qui sont vos oncles et tantes? N'imaginez pas que j'ignore tout de votre parenté. Quelle que soit ma parenté, dit Elisabeth, si votre neveu n'y voit pas d'inconvénient, cela ne vous regarde pas. Dites-moi une fois pour toutes si vous lui êtes fiancée. Elisabeth n'avait aucune envie de répondre uniquement pour satisfaire Lady Catherine, mais elle ne put s'empêcher de dire, après un moment de réflexion, « Je ne le suis pas. » Lady Catherine parut contente. « Et me promettez-vous de ne jamais consentir à de telles fiançailles ? Je ne ferai aucune promesse de ce genre. » « Miss Bennet, je suis choquée et stupéfaite. Je m'attendais à trouver une jeune femme plus raisonnable. Mais ne vous bercez d'aucune illusion. Je ne céderai jamais. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas donné les assurances que j'exige. Et je ne vous les donnerai certainement jamais. Je ne me laisserai pas intimider au point de connaître un acte aussi entièrement déraisonnable. Votre seigneurie veut que Monsieur Darcy épouse sa fille. Mais si je lui donnais la promesse tant désirée, cela rendrait-il leur mariage plus probable ? À supposer qu'il me soit attaché, suffirait-il que je les conduise pour qu'il demande la main à sa cousine ? Permettez-moi de dire, Lady Catherine, que les arguments par lesquels vous étayez cette requête hors du commun sont aussi frivoles que leur emploi est mal avisé. Vous méprenez entièrement sur mon caractère si vous croyez me convaincre par de tels moyens. J'ignore si votre neveu approuverait de vous voir vous immiscer ainsi dans ses affaires, mais vous n'avez certainement aucun droit de vous immiscer dans les miennes. Je dois donc vous prier de ne plus m'importuner à ce sujet. » Pas si vite, s'il vous plaît. Je n'ai pas du tout terminé. À toutes les objections déjà mentionnées, je n'ai encore une autre à ajouter. Je connais les détails de l'infâme enlèvement de votre jeune sœur. Je sais tout. Le jeune homme ne l'a épousée qu'après coup, et votre père et vos oncles ont dû payer. Une fille comme celle-là doit-elle devenir la sœur de mon neveu ? Mon mari, qui est le fils du régisseur de son défunt père, doit-il devenir son frère ? Juste ciel, à quoi songez-vous ? Les mânes de Pemberley doivent-elles être ainsi souillées ? Vous ne pouvez plus rien avoir à dire maintenant, répliqua Elisabeth avec aigreur. Vous m'avez insultée de toutes les manières possibles. Je dois vous prier de regagner la maison. » Et elle se leva tout en parlant. Lady Catherine se leva elle aussi et elles firent demi-tour. Sa seigneurie était furieuse. « Vous n'avez aucune considération pour l'honneur et le crédit de mon neveu. Fille égoïste et insensible, ne voyez-vous pas qu'une union avec vous le dégraderait aux yeux du monde ? Lady Catherine, je n'ai plus rien à ajouter. Vous connaissez mes sentiments. Vous êtes résolue à faire sa conquête ? Je n'ai rien dit de tel. Je suis seulement résolue à agir de la façon qui, selon moi, assurera mon bonheur sans vous consulter, vous, ni aucune personne qui n'ait aucun lien avec moi. Fort bien. » Vous me refusez donc cette faveur. Vous refusez d'écouter la voix du devoir, de l'honneur et de la gratitude. Vous avez juré de le perdre aux yeux de tous ses amis et de l'exposer au mépris du monde. Je ne dois écouter en l'occurrence ni le devoir, ni l'honneur, ni la gratitude, répliqua Elisabeth. Aucun de ces principes ne serait violé par mon mariage avec Monsieur Darcy. Quant au ressentiment de sa famille ou à l'indignation du monde, si je dois les susciter en l'épousant, je ne m'en soucie guère. Et le monde dans son ensemble sera bien trop sensé pour se joindre à ce mépris. Et c'est là votre véritable opinion, c'est là votre dernier mot. Très bien, je saurai comment agir. N'imaginez pas, Miss Bennet, que votre ambition sera jamais satisfaite. Je suis venue vous mettre à l'épreuve, j'espérais vous trouver raisonnable, mais fiez-vous à moi, je parviendrai à mes fins. Lady Catherine continua à parler ainsi jusqu'à ce qu'elle fût à la porte de la voiture. Elle se retourna brusquement et ajouta « Je ne vous salue pas, Miss Bennet. Je ne présente pas mes compliments à votre mère. Vous ne méritez aucune attention de ce genre. Je suis très gravement mécontente. » Elisabeth ne répondit rien, et sans même tenter de la convaincre de revenir avec elle à la maison, elle y rentra seule, dans le calme. Elle entendit la voiture s'éloigner tandis qu'elle montait l'escalier. Sa mère l'attendait avec impatience à la porte du boudoir afin de lui demander pourquoi Lady Catherine n'était pas rentrée se reposer. « Elle ne l'a pas voulu ainsi, » répondit sa fille. « Elle a préféré partir. »« C'est une femme tout à fait magnifique, et sa visite ici est une marque de civilité prodigieuse, car elle est simplement venue, je suppose, nous dire que les Collins allaient bien. J'imagine qu'elle était de passage et qu'en arrivant à Meryton, elle aura eu l'idée de venir nous voir. Je pense qu'elle n'avait rien de particulier à t'apprendre, Lizzie. » Elisabeth fut bien obligée de mentir un peu, car il lui était impossible de dévoiler ce qui s'était dit entre elles. Voilà, c'était le dernier extrait d'Orgueil et Préjugés. Pourquoi je fais une émission sur ça ? Parce qu'en fait, j'aime vraiment cette femme, j'aime vraiment cette autrice qui nous parle d'une condition extrêmement spéciale, mais d'une manière tellement vivante et tellement humaine et tellement forte qu'on n'a qu'une envie, c'est lire et relire ses livres. Et en fait, ces livres, finalement, on peut aussi les voir comme une sorte de mode d'emploi pour les jeunes filles de son époque. Comment s'en sortir pour finalement se marier étant la seule voie vers une certaine forme d'indépendance, parce qu'on n'en a absolument aucune si on reste avec ses parents, sauf si on arrive à gagner un peu d'argent sans se faire mal voir par le reste de la société, comme Jane Austen a finalement lentement réussi à le faire à la fin de sa vie. Et donc, c'est un espèce de manuel de conduite pour trouver le mari le moins pire. C'est un peu comme ça que je vois Jane Austen. Et en plus, comme on a pu le voir, elle présente de manière très vivante des personnages très ridicules, ce qui rend tout ça très ironique et très drôle. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire dans le personnage d'Elisabeth, c'est qu'elle n'hésite pas à parler à une femme envers qui, selon le système des convenances, à qui elle ne devrait même pas répondre parce que c'est une femme qui est beaucoup plus riche qu'elle et qui est à un niveau beaucoup plus élevé de la société. Mais elle le fait quand même, elle ouvre sa bouche. Et donc merci pour cela, Jane Austen. Voilà, ben c'est la fin de cette émission, donc j'espère que je vous ai peut-être donné un peu envie, et si je vous ai pas donné envie, vous avez peut-être une petite idée de ce que faisait Jane Austen et de quoi elle nous parlait. On va se retrouver dans un mois, ce sera peut-être pas le quatrième samedi, mais je vous tiendrai au courant par le site Facebook de la locale de la prochaine date de l'émission. Et je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, donc ça va être une surprise. Et dans 3 semaines, le deuxième samedi de mai, le 7 mai, vous avez le rendez-vous féministe de la locale avec l'émission Ta voisine est féministe, qui va porter sur l'autodéfense féministe face aux agressions. Donc on va se quitter sur une chanson d'Anne Sylvestre encore, décidément je vous en kikine. Hein. Et c'est une chanson qui s'appelle « Comme un personnage de Sampé » que je voudrais dédicacer à mes amis qui me soutiennent, nous qui essayons tous ensemble de traverser ces temps toujours un peu durs dans la solidarité et tout ça. Et ça s'appelle « Comme un personnage de Sampé ». Et ça dit, comme l'est un peu Jane Austen aussi finalement, c'est... comme on peut se sentir dérisoire et inutile par moments. Et parce que peut-être tous les personnages de ces romans sont aussi tout simplement de petits personnages de Sampé.
Si j'ai comme tout le monde les yeux plus grands que le cœur, et le cœur qui se débande pour un soupçon de bonheur, si j'ai mal à mon enfance, j'ai l'avenir courageux. Et pour un prix d'excellence, j'abandonne tous mes jeux. Mais je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de Sampé. Je me sais poète, Ronsard n'est pas mon cousin. Je voudrais mourir pour être déjà dans tous les bouquins. Je supporte qu'on m'admire, ça fait du bien quelquefois. Mais un oubli vient me dire qu'au fond je n'existe pas. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de Sampé. Pourtant je reprends courage et je me sens rossignol. Je voudrais que mon ramage et ma voix de flûte en sol puissent toucher tout le monde, faire partager mes joies. Mais j'apprends que sur les ondes, on n'a pas besoin de moi. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de sang. Se croit irremplaçable, mais on n'est finalement qu'un infime grain de sable entre les griffes du vent. Il arrive aussi qu'on gagne, mais on perd au prochain coup. On déplace des montagnes qui ne sont que des cailloux. Et on se sent dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de sang. Je continuerai ma route, chez moi on ne s'arrête pas, et je laisserai sans doute quelque chose derrière moi. Alors le plus bel hommage, ça serait de me laisser me promener dans l'image. Je ne ferai que passer, et je serai provisoire, une fourmi dans l'histoire rassurée, un être humain dans la foule dans la tendresse qui coule de son pays. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de son pays.